Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence par un ancien président lourdement condamné.
Nicolas Sarkozy écope en effet d'un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion pour le financement illégal de sa campagne de 2012. Le maximum de la peine encourue, une peine plus lourde même que ce qui avait été requis. L'ex-chef d'État va faire appel. On revient dans un instant sur les attendus de ce jugement. À suivre également, plus de masques à l'école dans 47 départements à partir de lundi prochain. Les Français dans l'attente de nouvelles mesures du Premier ministre pour faire face à la montée des prix de l'énergie. Premier déplacement de campagne pour le candidat des Verts, Yannick Jadot. Peut-être la fin d'une affaire criminelle qui hante le 36 Quai des Orfèvres depuis 3 décennies. Et pour terminer, un livre adapté d'un podcast sur la mécanique de l'inceste.
À 18h15, un jour dans le monde, nous revoilà sur la piste du Covid avec une étude passionnante de l'Institut Pasteur qui donne quelques clés supplémentaires aux questions qui nous obsèdent depuis 2 ans. Où est né le virus? Comment? Par qui arrive la maladie? Et vous verrez qu'on commence doucement à répondre à ces questions en passant par le Laos. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on parle des salles de shoot, dont le nom, en réalité, est salle de consommation à moindre risque. Un système qui permet d'accompagner à terme, bien sûr, c'est le but, sevrer les toxicomanes. Il ne vous a pas échappé que l'installation des salles de shoot à Paris pose problème. Les riverains se sentent mis sur le fait accompli. On essaiera de s'interroger ce soir sur l'efficacité de ces salles de shoot, sur la meilleure manière de faire en sorte que ce dispositif fonctionne pour les toxicomanes, pour les médecins et aussi pour les riverains au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc sa deuxième condamnation à de la prison ferme.
Une première judiciaire. Il y a 7 mois, Nicolas Sarkozy avait déjà été condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence. Dans l'affaire dite des écoutes, il a fait appel. Cette fois, c'est dans la retentissante affaire Big Malion, les comptes de la campagne présidentielle de 2012, les plafonds autorisés très largement dépassés, 2 fois plus que le plafond légal. Et le jugement du tribunal correctionnel de Paris est donc tombé ce midi. Sévère. Bonsoir Laurélie.
Bonsoir.
Nicolas Sarkozy condamné donc à 1 an de prison ferme, au-delà des réquisitions du parquet qui avait demandé 1 an, dont 6 mois avec sursis. Les magistrats, Laurélie, ont estimé que l'ex-chef d'État ne pouvait pas ne pas savoir.
Oui, pour les juges, Nicolas Sarkozy a, je cite, « volontairement omis d'exercer un quelconque contrôle de ses dépenses de campagne ». C'est-à-dire qu'il savait que ses dépenses étaient plafonnées, il était loin d'être un novice en politique, deuxième campagne présidentielle tout de même, locataire de l'Élysée au moment des faits et surtout, il savait que ses comptes étaient dans le rouge puisqu'il avait reçu 2 notes d'alerte des experts comptables. Mais malgré ces avertissements, le président candidat n'a pas ralenti la cadence. Au contraire, les meetings se sont enchaînés. La défense de Nicolas Sarkozy avait souligné qu'il n'avait signé aucun devis, aucune facture. Un argument que balaye le tribunal dans la mesure où les dépenses ont été décidées ou approuvées par le candidat et qu'il en a manifestement tiré parti. À la différence de ses 13 co-prévenus, Nicolas Sarkozy n'était pas venu assister au procès, seulement présent le jour de son interrogatoire. Il n'était pas non plus au tribunal ce matin pour l'énoncé du jugement et c'est par la voix de son avocat Thierry Herzog qu'il a annoncé faire appel.
Laurélie Carive, service police-justice de France Inter, merci. Nicolas Sarkozy, vous le disiez, n'était pas le seul jugé dans ce dossier. 13 co-prévenus étaient également poursuivis, ancien cadre de l'agence de communication Big Malion et de l'UMP, poursuivis pour faux, abus de confiance, escroquerie, tous condamnés, tous à des peines plus lourdes que celles requises également, entre quelques mois avec sursis et 1 an de prison ferme, 1 an et demi de prison ferme. Aucun d'entre eux à l'époque du procès n'avait assumé ce système de fausse facturation. Le seul à l'avoir fait à la barre, c'est Jérôme Lavrieux. Laurélie Carive a recueilli sa réaction à la sortie du tribunal.
Je savais que je serais condamné. Je note que la présidente du tribunal a validé complètement ce que moi je dis depuis le début. Qu'il n'y avait pas eu de constitution, de cagnotte, de détournement d'argent par qui que ce soit. C'est pour moi une grande victoire. Ça fait 7 ans que je vis une forme de relégation ou d'assignation à domicile. Je ne suis pas soulagé. On ne peut pas être soulagé d'être condamné. Je ne tournerai jamais la page de ça. Ça fera partie de ma vie. J'ai sans doute commis des fautes. Je vais payer pour. Mais pour l'instant, mon état d'esprit, c'est de ne pas faire appel.
Jérôme Lavrieux, condamné à 3 ans de prison, dont un avec sursis. Depuis ce midi, les réactions politiques sont nombreuses, essentiellement sur Twitter. À droite, beaucoup de messages de soutien à l'ancien chef d'État. Parmi eux, celui de Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle. Je forme le vœu, dit-il, que la vérité se fasse en appel. Soutien et affection exprimés par le patron des LR, Christian Jacob. La condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion à retrouver aussi sur franceinter.fr. Et dans le journal de 19h.
Le masque à l'école primaire va donc pouvoir tomber à partir partir de lundi prochain.
Mais seulement dans les départements où le Covid-19 circule peu, 47 départements exactement, dont la liste a été publiée au Journal officiel ce matin. La fin du masque à l'école, c'était une revendication des parents d'élèves, car les enfants, surtout les plus jeunes, avaient bien du mal à respecter cette obligation. C'est le résultat d'une enquête menée par la PEP, la Fédération de parents d'élèves. Sonia Princet.
Selon cette enquête, 42% des parents interrogés estiment que leur enfant éprouve des difficultés à porter le masque à l'école élémentaire. C'est bien plus qu'au collège ou au lycée. Olivier Toutain est président de la PEP.
On sait que les plus jeunes se touchent le visage en permanence, sont tout le temps en train de l'enlever, le remettre, et ils n'arrivent pas bien à comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent le garder. On peut le leur expliquer, c'est pas pour autant qu'ils comprennent et que, on va dire, ils s'en rappellent sur la longueur.
Pour les plus petits, en CP, en CE1, le masque peut gêner pour l'apprentissage de la lecture. C'est donc un soulagement pour les parents des départements concernés par l'abandon du masque en classe. Ailleurs, il faudra attendre, comme le regrette Isabelle Ferry, la vice-présidente de la PEP.
Après, il y a un deuxième combat pour les collégiens et les lycéens, parce qu'effectivement, il n'y a pas le même traitement. Les parents ont du mal à comprendre pourquoi ils ont encore le masque. Si dans le collège, il y a, mettons, 80% entre le personnel et les élèves qui sont vaccinés, pourquoi ils portent encore le masque? Donc tout ça, c'est des incompréhensions sur le terrain. Ça ne facilite pas la visibilité du protocole sanitaire tel qu'il est mis en place.
Pour les professeurs, la règle reste inchangée. Port du masque obligatoire en classe, de la maternelle au lycée, quel que soit le département.
Sonia Princet, c'est le sujet qui enflamme l'exécutif depuis quelques jours. La hausse du prix du gaz et de l'électricité, 12% de plus pour le gaz à partir de demain, 12% aussi pour l'électricité en début d'année prochaine. Face à cette flambée de l'énergie, le gouvernement cherche à limiter les dégâts pour les Français, chèque énergie, mais aussi de nouvelles mesures ce soir annoncées par Jean Castex, le Premier ministre au JT de TF1. En attendant, les plus fragiles se serrent déjà la ceinture, exemple à Nîmes, avec ce retraité qui envisage de reprendre le travail. C'est le reportage de Paul Le Guen.
L'homme est soigné, cheveux blancs, longs, bien coiffé. Il semble à l'aise financièrement. Il est assis seul, sur un banc, face aux arènes de Nîmes, perdu dans ses pensées. En fait, il compte ses sous, sa facture de gaz par exemple.
J'ai une période où je payais 56 euros par mois prélevé. Et depuis 5 mois jusqu'à la fin de ce mois-ci-là, je paie 156 euros par mois. Et ça me prenait beaucoup sur la retraite. Je comptais, je faisais attention et j'arrivais en fin de mois où j'avais, avec ma nourriture, avec mes dépenses complémentaires, enfin les choses qu'on a tous plus ou moins, et je n'ai pas de voiture. Donc je me retrouve dans une période où je trouve qu'actuellement c'est difficile.
Du coup, il a anticipé cette nouvelle hausse.
Je viens de mettre une clim et qui fait aussi bien froid que chaud. Donc je n'aurai à faire simplement pour mon espace cuisine, puis douche, c'est tout.
L'homme est prévoyant, mais ça ne suffira peut-être pas.
La preuve, c'est que je suis en retraite. Moi, j'ai quand même 82 ans. Hein. Je vais essayer de reprendre quelque chose. Je vais essayer de compléter ma retraite.
Vous avez bien compris, à 82 ans, il va chercher un petit boulot.
Paul Le Guen, reportage de France Bleu, Gare Lozère.
C'est peut-être la fin d'un des cold cases sans français dans le texte les plus mystérieux.
Une affaire vieille de 35 ans, l'affaire de l'homme au visage grêlé, soupçonné de 6 viols, de 4 meurtres dans les années 80-90, suspecté notamment du meurtre de la petite Cécile Bloch, âgée de 11 ans. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Sébastien.
Un homme s'est suicidé hier soir, un ancien gendarme convoqué par la police judiciaire et qui, avant de se donner la mort, a laissé une lettre d'aveu.
Oui, si les analyses ADN le confirment, l'identification posthume de cet homme marquera la fin d'un des plus longs mystères criminels français. Le grêlé, donc, tueur et violeur en série des années 80-90 à Paris et à Meaux, comme l'écrit la journaliste Patricia Touranchot, spécialiste du dossier. En 35 ans de recherche, les enquêteurs avaient fini par tout savoir de lui, à quoi il ressemble, comment il s'habille, ce qu'il fume, ce qu'il lit. Ils savaient tout, sauf son nom. 35 ans, des centaines de recherches infructueuses, des fausses dénonciations et régulièrement aussi des interpellations vaines. En 2005, par exemple, la police va lancer un vaste coup de filet sur 135 suspects potentiels. L'ADN les innocentera jusqu'à ce nouvel indice qui a récemment mis la cellule cold case de la brigade criminelle sur la piste d'un suspect qui aurait pu être membre des forces de l'ordre. C'est à ce titre que l'ancien gendarme a reçu une convocation du juge d'instruction. Il ne s'y est pas rendu, il a quitté son domicile montpelliérain pour louer un appartement en bord de mer et rédiger une lettre d'aveu. Il s'est donné à mort hier soir.
Jean-Philippe Degnaud, en politique, les écolos vont-ils réussir à se rassembler depuis la victoire de Yannick Jadot à la primaire? L'ambiance reste tendue avec sa rivale Sandrine Rousseau, qui pourtant avait promis de se rallier au vainqueur. Dialogue peu constructif, pas assez de radicalité, estime l'écoféministe. Aujourd'hui, le candidat d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle a fait son premier déplacement en Savoie et il en a profité pour taper un peu du poing sur la table. La primaire est terminée, dit-il, le vote a tranché. Yannick Jadot, donc en campagne, désormais, il est venu parler politique industrielle à la légère auprès des salariés de Ferropem, une usine rentable mais que son actionnaire a mis à l'arrêt depuis 9 mois. Laurence Perron a suivi pour nous le candidat des Verts.
Pas la peine de présenter Monsieur Jadot.
Le candidat a tenu à marquer son territoire à deux pattes de Notre-Dame de Briançon, le berceau du communiste Ambroise Croizat, fondateur de la Sécurité sociale. Mais surtout, il vient soutenir la lutte des 257 ouvriers de Ferropem qui fabriquent du silicium, dont on fait aussi les panneaux solaires.
Bonjour.
Alors,
vous êtes réactif, ça fait plaisir.
Une sorte de Florange en Savoie.
De toute façon, on a besoin de cette usine. Alors soit c'est des repreneurs, soit c'est la nationalisation temporaire. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour demander du gouvernement, du Premier ministre ou du Président de la République qui garantissent la relance de l'usine Ferropem de Château-Feuillet. On a besoin d'une politique industrielle, on n'a pas besoin de clientélisme, parce que franchement, si à la fin, c'est pour aller chercher du silicium en Chine, c'est proprement dégueulasse de faire ça.
Mustapha Hadou, qui au nom du comité social négocie avec le gouvernement, vient justement de recevoir un coup de fil de l'État. Le plan social pourrait être suspendu.
Si le président veut qu'on s'intéresse un peu à la campagne présidentielle et qu'on aille voter, faudrait-il qu'on arrête de penser à ce qu'on va faire après avoir perdu notre travail ?
Parlons pas de la politique politicienne. Je veux dire, les salariés et ces usines crèvent de la politique politicienne.
Et plus un mot désormais sur les politiques aériennes internes, sur les bons et les mauvais perdants de la primaire.
Laurence Perron, il a dû faire face à des creux de 7 mètres dans sa petite coque de noix. Le jeune aventurier grec soudé a réussi son pari aujourd'hui, traverser l'Atlantique à la rame, comme Gérard Daboville en 1980. Mais loin de son record de 72 jours, le navigateur de 28 ans aura mis 107 jours pour franchir l'océan Atlantique, arrivée prévue demain à midi dans le port du château de Brest.
On finit ce soir par un podcast devenu un livre.
Un podcast intitulé « Ou peut-être une nuit ». Immense succès l'an dernier, 1 million d'écoutes. Il faisait suite au récit de Camille Kouchner, La Familia Grande sur l'inceste. Ce podcast, son auteur Charlotte Pudlowski en a fait donc un livre. Elle part de l'histoire de sa mère pour démonter les mécanismes de l'inceste. Ilana Mor-Youssef.
Au commencement, il y a une confidence. Un secret révélé presque négligemment, l'air de rien, au restaurant. Charlotte Pudlowski.
Quand j'avais 26 ans, ma mère m'a dit de manière très impromptue et presque de manière anodine qu'elle avait été victime d'inceste dans son enfance.
Il a fallu plusieurs années à Charlotte Pudlowski pour savoir quoi faire de cette confidence. Comprendre, recueillir des témoignages, rencontrer des anthropologues, des sociologues, des psychiatres et enfin raconter à son tour. Car l'un des enseignements qu'elle tire de cette histoire, c'est que dire ne suffit pas. Il faut répéter, ne pas laisser le silence engloutir la parole.
Il y a plein de gens qui me disent « moi j'en avais parlé à un tel, j'en avais parlé à un tel » et ensuite la parole ne circule pas. Et moi, ma grande sœur a su que ma mère avait été victime d'inceste, elle me l'a pas dit. Ensuite moi je l'ai su, je l'ai pas dit à mon petit frère. Ensuite mon petit frère l'a su et il m'en a pas parlé. Et en fait, il faut en permanence recommencer à dire pour que les choses se diffusent, pour que l'histoire se sache.
C'est la raison pour laquelle ce livre existe, après le podcast à succès sur le même sujet.
Faire un livre à partir du podcast, c'était un aboutissement parce que la transgression ultime sur ce sujet de l'inceste, le fait de braver les silences, c'est vraiment d'en faire un récit tangible. Et un livre, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans sa main, qui existe dans le monde. Et le podcast, je pense que c'était une étape vers le livre.
Un livre qui montre ce que l'inceste dit de notre société patriarcale.
Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski est publiée aux éditions. Grasset.
Sébastien Logeni, merci beaucoup. À tout de suite, dans Un jour dans le monde, vous nous parlerez notamment d'un scandale incroyable au Brésil lié au Covid. Ce soir, nous allons nous aussi nous rapprocher un peu plus du Covid et surtout de ses origines grâce à une étude de l'Institut Pasteur, grâce à des chauves-souris et au Laos. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne. Ce soir, nous allons comprendre ensemble, essayer de comprendre ensemble la solution des salles de shoot. Est-ce que c'est la bonne pour lutter contre le fléau du crack ? À quoi sert une salle de shoot réellement? Pourquoi c'est une réussite parfois et parfois non? Comment arriver à s'accorder entre médecins, toxicomanes et riverains? La discussion commence comme il se doit maintenant au 01 45 24 7000. Et sinon, Élodie Calaquella.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et Élodie, la dégradation commence par l'ouest.
Oui, avec une perturbation qui arrive dès ce soir par la Manche. Alors, elle donnera de bonnes pluies demain matin du nord-ouest jusqu'au Pas-de-Calais, puis jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, au bassin parisien et aux Ardennes l'après-midi, où elles remplaceront le soleil du matin. Et puis ailleurs, la journée sera encore ensoleillée. Alors, un peu de brouillard tout de même vers la Loire et vers le Val-de-Saône le matin. Et puis, un voile nuageux viendra contrarier le soleil l'après-midi, surtout de l'ouest des Pyrénées vers le Berry et la Lorraine.
Et sinon, température contrastée, en tout cas le matin, Elodie ?
Oui, parce que sans couverture nuageuse dans l'Est, il ne fera pas plus de 2 à 7 degrés. Et puis, il fera doux, en revanche, sous la pluie. 14 degrés à Deauville, 15 à Vannes. L'après-midi, comptez 16 degrés à Paris, 17 à Cambrai, au Mans, 19 à Metz et à Limoges, 22 degrés à Mulhouse, 23 à Lyon, à Montauban, 26 à Marseille et on ira jusqu'à 27 à Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure, après 19h.